À quoi comparons-nous le royaume de Dieu numéro 1 ? Avant propos et introduction, cette série d'études se propose d'analyser les principales paraboles des évangiles de Matthieu et de Marc et d'en déterminer le sens originel, surtout par rapport au thème central de la prédication de Jésus, le règne de Dieu. Elle se présente, avant tout, comme un outil de recherche pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les paraboles du royaume dans leur cadre historique. Ceci étant, on n'y trouvera pas de critiques approfondies des interprétations dont je m'écarte. De même, les applications contemporaines qu'on peut tirer des paraboles resteront au second plan. Il vous sera absolument indispensable de toujours avoir votre Bible ouverte au passage où se trouve la parabole en question. Les références de ces passages sont précédées dans ce commentaire par l'avis suivant, lire. N'allez pas plus loin avant d'avoir terminé la lecture ainsi indiquée. Sauf indication contraire, les citations bibliques sont empruntées à la nouvelle version second révisée, dite Bible à la Colombe, avec l'aimable autorisation de l'Alliance biblique universelle. Max Donné. Introduction. Les paraboles représentent à peu près le tiers de l'enseignement de Jésus transmis dans les évangiles. Elles sont de loin la partie du Nouveau Testament la plus familière au grand public. Qui, aujourd'hui, ne connaît pas les histoires du bon samaritain et du fils prodigue? Mais la familiarité peut être trompeuse. On se contente trop souvent d'une connaissance superficielle, qui fait passer à côté du vrai sens des paraboles. La plus grande source d'erreur est probablement la tendance à les interpréter en dehors de leur cadre primitif, le ministère de Jésus parmi les Juifs du 1er siècle. Il est donc indispensable, dans toute étude des paraboles, d'en établir l'application originelle, ce que Jésus voulait dire lorsqu'il les a relatées. Voilà, d'ailleurs, la première tâche de l'étudiant de la Bible, déterminer quel était, dans son contexte historique, le sens de chaque passage. Ensuite, il pourra en tirer des leçons pratiques pour sa vie. Définition du mot parabole. Le mot parabole vient du terme grec parabolē, dérivé du verbe parabalo, mettre une chose à côté d'une autre, d'où comparer. La parabole est essentiellement une illustration, une comparaison destinée à mettre en lumière une vérité à démontrer. L'usage des paraboles était très courant dans l'enseignement à l'époque de Jésus, parmi les Grecs aussi bien que chez les rabbins juifs. Les genres de paraboles évangéliques, les paraboles que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire les paraboles histoires, ne sont pas le seul genre de parabole dans les évangiles. En effet, le mot parabolē a un sens assez étendu. Il correspond à l'hébreu machal, qui désigne non seulement les paraboles, mais toutes sortes de formes littéraires où prédomine l'élément figuratif, énigme, sentence, proverbe, poème, allégorie, etc. On pourrait regrouper les paraboles évangéliques en trois catégories, sans pourtant prétendre les délimiter d'une manière précise. 1. Sentence figurative ou proverbe. Luc 4:23, Jésus leur dit, « Certainement, vous me citerez ce proverbe, parabolē en grec, médecin, guéris-toi toi-même, il s'agit ici d'un dicton. » Ce genre de parabole peut prendre aussi la forme d'énigme, dont il faut chercher quelque peu le sens. Jésus dit aux foules dans Marc 7:15-17, « Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole de comparaison ou similitude. Ces paraboles illustrent ce que Jésus enseigne sans être toutefois développées en de véritables histoires. Par exemple, pour illustrer la nécessité de prêter attention aux signes avant-coureurs de la destruction de Jérusalem, Jésus donne l'exemple du figuier, héros de l'été. Matthieu 24:32-34, recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Jésus utilisait le même procédé pour répondre à ses adversaires. Marc 3:22-26, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, « Béelzébul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, c'en est fini de lui. » Pour d'autres exemples, voir Marc 13:34-37, Luc 7:31-34, 14:28-32, 17:7-10:3. Histoire. Ces paraboles racontent une suite d'événements qui forment ensemble un récit complet. On peut citer en exemple les paraboles des vignerons, du fils prodigue et des talents. Nature et but des paraboles. On peut préciser la nature de la parabole en énumérant trois de ses éléments constitutifs. 1. La parabole évangélique comporte une illustration tirée de la nature ou de la vie humaine. Cela ne signifie pas qu'elle dépeint toujours ce qu'on peut observer normalement dans l'expérience quotidienne. En effet, Jésus introduit souvent des traits qui ne s'accordent pas vraiment avec les réalités de tous les jours et qui étonnent même par leur invraisemblance. 2. Elle a pour but de faire comprendre une vérité d'ordre spirituel, ou plus précisément, de donner une intelligence spirituelle de la situation critique dans laquelle se trouvaient Jésus et ses auditeurs. Les paraboles des évangiles ne servaient pas tant à illustrer des principes généraux de moralité qu'à annoncer l'arrivée imminente du règne messianique. Leur but était de faire comprendre aux Juifs leur situation vis-à-vis de cet événement capital. 3. Elle établit un rapprochement entre l'histoire racontée et la situation réelle figurée. Elle entraîne l'auditeur à porter un jugement sur ce qui est décrit dans la parabole et ensuite le somme, directement ou indirectement, d'appliquer ce jugement à la situation historique indiquée par le contexte. La pointe de chaque parabole réside donc dans une comparaison entre deux situations. La première évoquait aux auditeurs juifs des scènes et des tableaux familiers de la vie en Palestine. La seconde, au moins en ce qui concerne la plupart des paraboles traitées dans cette étude, se rapportait à quelque aspect du règne messianique qui arrivait. Trouver le point de rapprochement entre ces deux termes de la comparaison n'était pas, pourtant, toujours simple. C'est que les paraboles étaient destinées à faire réfléchir, elles entendaient susciter la réflexion spirituelle. Les paraboles dans l'enseignement de Jésus, ceci nous amène à la question suivante, pourquoi Jésus parlait-il en paraboles? On peut discerner au moins trois façons dont Jésus s'en servait. 1. La première manière dont Jésus employait les paraboles est très simple, il voulait enseigner, et les paraboles sont un moyen d'enseignement. Elles convenaient particulièrement aux Juifs de l'époque, pour rendre accessibles certaines vérités qu'ils trouvaient difficiles à accepter. Marc 4h33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. ; Si Jésus avait parlé ouvertement aux foules du règne messianique, il les aurait offusqués. Pourquoi? Parce que le règne du Christ ne correspondait pas au rêve nationaliste des Juifs, qui désiraient surtout se libérer, par des moyens militaires, du joug romain et fonder un empire politique. L'emploi de la parabole permettait à Jésus de présenter la vraie nature du royaume sous un voile léger et de dissiper progressivement les préjugés terrestres des Juifs. Jésus leur révélait ainsi la nature du règne, les conditions de son établissement, les devoirs de ses sujets, etc. L'enseignement en parabole faisait ainsi partie du secret messianique, c'est-à-dire la manière dont Jésus, pendant son ministère, ne manifestait qu'indirectement aux foules sa messianité, voire les remarques au chemin. Une fois que Jésus serait proclamé ouvertement Seigneur et Christ par la résurrection et que son règne serait pleinement établi, cette méthode d'instruction perdrait sa raison d'être. C'est ce que nous indique la parabole de la lampe, que Jésus adresse à ses disciples dans Luc 8h16-18, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un objet, ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrevoient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui ne l'a pas, on notera même ce qu'il pense avoir. » La lampe représente ici la vérité sur le règne du Messie. Cette vérité était voilée du vivant de Jésus, qui parlait en parabole et réservait les explications aux disciples. Mais cette manière de faire n'était que temporaire. Car le moment viendrait où les apôtres devraient proclamer en pleine clarté et sans voile les mystères du royaume que Jésus leur confiait, Matthieu 10, 5 à 8, 26 à 27. C'est pourquoi les disciples devaient ouvrir pleinement leur intelligence et leur cœur aux enseignements de leur maître. 2. Bien que donnant un commencement de lumière, les paraboles servaient aussi à priver de la lumière. Marc 4h10-12, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Les Juifs aveuglés par leurs préjugés charnels ne saisissaient pas le message des paraboles. Pour ceux qui ne cherchaient pas plus loin, au pied du maître, l'enseignement en parabole devenait une occasion d'endurcissement. 3. Puisque les paraboles engagent si facilement l'intérêt de l'auditeur, Jésus les utilisait parfois comme une sorte de piège. Elles étaient un moyen d'amener les hommes à admettre une vérité avant de se rendre compte qu'elle s'appliquait à eux personnellement. À la fin de la parabole des vignerons, par exemple, les chefs d'Israël, sans le savoir, prononcèrent leur propre condamnation, Il fera périr misérablement ces misérables. Ils approuvèrent la justice de cette sentence avant de comprendre que c'était d'eux que Jésus parlait. Principe d'interprétation des paraboles. Il est difficile d'établir pour les paraboles des règles strictes d'interprétation. Car, si elles sont essentiellement des comparaisons, le degré de comparaison varie avec chaque parabole. Il arrive qu'une parabole possède l'allure presque d'une allégorie, d'une histoire où chaque détail a une signification symbolique. Tel est le cas, par exemple, des paraboles du semeur et des vignerons. Mais dans toutes les paraboles, même celles qui possèdent des traits allégoriques, les détails jouent un rôle secondaire. Ils ne sont là que pour bâtir l'histoire ou renforcer la leçon centrale que Jésus cherche à mettre en lumière. Le premier danger à éviter est donc la tendance à donner une signification allégorique aux détails qui, à l'origine, n'en avaient pas. Regardons, par exemple, comment Origène, auteur chrétien du IIIe siècle, traita la parabole du bon samaritain, Luc 10h25-37, qui n'a, sans aucun doute, d'autre but que d'illustrer le genre d'amour qu'il faut montrer envers le prochain. Pour Origène, la victime représente Adam, Jérusalem, le ciel, Jéricho, le monde, les voleurs, les démons, le prêtre, la loi, le lévite, les prophètes, le bon samaritain, Jésus, l'auberge, l'église, les deux deniers, le Père et le Fils, le retour promis, le dernier avènement du Christ. La doctrine est peut-être chrétienne, mais ce n'est pas du tout l'enseignement de la parabole. Bien que les paraboles soient un moyen merveilleux de présenter la vérité, elles sont sujettes à beaucoup d'abus. Par conséquent, il faut les analyser avec soin et prudence. Pour cela, on se laissera guider par les principes suivants, incorporés dans une méthode d'étude comprenant quatre étapes. 1. On commence par lire attentivement le texte de la parabole pour y relever les détails qui ont besoin d'être expliqués en fonction de la culture palestinienne du 1er siècle ou qui sont une indication quant à l'idée centrale de l'histoire. 2. La deuxième étape consiste à replacer chaque parabole dans son cadre textuel et historique. L'important, ce n'est pas ce que nous ou quelqu'un d'autre pouvons lire dans la parabole, mais ce que Jésus, lui, a voulu y mettre. Il faut donc prêter beaucoup d'attention au contexte particulier dans lequel la parabole est prononcée, les circonstances qui la provoquent, l'introduction par laquelle elle s'ouvre, l'identité des auditeurs, le moment du ministère de Jésus, etc. Une parabole arrachée hors de son contexte devient souvent un terrain fertile pour des spéculations outrancières. 3. Il faut ensuite chercher la leçon principale, l'application originelle de la parabole. Sous quel point de vue précis se fait le rapprochement entre l'illustration et la réalité illustrée? Souvenons-nous que la parabole typique présente un seul point de comparaison et que pour le trouver, il faut regarder d'abord, non pas le domaine des principes généraux de moralité, mais la situation réelle dans laquelle se trouvaient Jésus et ses auditeurs. 4. Bien que chaque parabole ne contienne, en général, qu'une seule vérité centrale, nous pouvons y trouver des leçons supplémentaires afin de les appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Cette dernière étape demande la plus grande prudence. Pour éviter les erreurs et les malentendus possibles, nous devons suivre toujours les deux recommandations suivantes. A. Ne jamais tirer d'une parabole une leçon incompatible avec l'intention originelle de l'histoire ou avec des vérités énoncées clairement ailleurs dans la Bible. B. Distinguer nettement entre le sens originel des paraboles et les applications, même légitimes, que nous pouvons en tirer pour notre vie. Jésus prononça chacune de ces paraboles à un moment concret de son ministère, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut les aborder. En recherchant trop vite un message pour nous-mêmes, nous risquons de passer à côté de ce que Jésus voulait dire. Nombre de paraboles. Il n'y a pas d'unanimité sur le nombre de paraboles rapportées dans les évangiles. Le chiffre exact dépend de comment on définit une parabole. Si l'on inclut proverbes, comparaisons et histoires, le nombre s'élève à environ 60. Si on ne compte que les paraboles d'une certaine étendue, on arrivera à un chiffre entre 30 et 35. La plupart des paraboles se trouvent en Luc, suivi de Matthieu et de Marc. L'évangile de Jean contient surtout des métaphores et des allégories. Les paraboles analysées dans cette série d'études 1. Le semeur, MT 13, 3 à 23, Mac 4, 4 à 20, LC 8, 4 à 15, 2. L'ivraie, MT 13h24-30, 3. Le grain de moutarde, MT 13h31-32, Mac 4h30-32, LC 13h18-19, 4. Le levain, MT 13h33, LC 13h20, 5. Le trésor caché et la perle de grand prix, MT 13h44-46, 6. Le filet, MT 13h47-50, 7. La semence, Mac 4h26-29, 8. Le serviteur impitoyable, MT 18h23-25, 9. Les ouvriers embauchés à différentes heures, MT 20, 1 à 16, 10. Les deux fils, MT 21h28-36, 11. Les vignerons, MT 21h33-45, Mac 12, 1 à 12, LC 20, 9 à 19, 12. Les noces et l'habit nuptial, MT 22, 2 à 14, 13. Les dix vierges, MT 25, 1 à 13, 14. Les talents, MT 25, 14 à 30.